Parlons maintenant du don d'organes. Vous savez que c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Je vous ai déjà raconté que mon conjoint Thierry avait eu la vie sauve grâce à un donneur et à ses proches qui ont consenti à ce qu'il puisse donner ses organes, dont le foie que mon conjoint a reçu il y a quelques années. Et on sait que demain, il y a le député libéral, donc un député de l'opposition, là, pas du gouvernement, un député libéral, André Fortin, qui veut faire un peu comme ça se fait en Nouvelle-Écosse, c'est-à-dire on va présumer que vous avez donné votre accord pour donner votre organe. C'est ce qu'on appelle le consentement automatique. Ça se fait également ailleurs. Ici, c'est pas tous les médecins qui sont en faveur de ça. On va avoir une espèce de débat. Je vais vous poser la question. Pour ou contre le consentement automatique pour le don d'organes? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Aujourd'hui, je vous rappelle que si vous acceptez qu'on donne vos organes après votre mort cérébrale, 100 ans, vous devez signer l'endo de votre carte d'assurance maladie. Il y a encore beaucoup de gens qui ne le font pas pour toutes sortes de raisons. Il y a des gens qui ne savent pas comment ça marche. Il y a des gens qui ont toutes sortes de craintes. Le docteur Pierre Marsolais est avec nous. Il est interniste, intensiviste. Il est ex-directeur du Centre de prélèvement d'organes du CIUS du nord de l'île de Montréal, l'hôpital Sacré-Cœur. Merci d'être là, docteur Marsolais. Je connais votre opposition au consentement automatique. Dites-nous pourquoi vous trouvez que ce n'est pas une bonne idée. Docteur Marsolais?
Oui, oui. Je suis là.
Voilà. Alors, je vous posais la question. Ouais. Dites-moi pourquoi vous êtes opposé au consentement automatique.
Oui, c'est pas tant que je suis opposé que malheureusement, c'est pas là où il faut mettre ses efforts. On fait l'association facile de dire s'il y a pas suffisamment d'organes pour la transplantation, donc c'est une question de consentement, alors on doit rendre le consentement obligatoire et ça règle la question. Alors que le problème n'est pas là. Partout au monde, même dans les pays où il y a consentement présumé, on demande toujours, toujours à la famille. Alors, c'est toujours la famille qui a le dernier mot. Alors, qui est consentement présumé ou pas, on demande à la famille. Et si la famille dit oui, il y a prélèvement d'organes et transplantation. Et si la famille dit non, il n'y en a pas. Le piège ici, il y a un danger avec le consentement présumé, c'est que ça donne une perception. Premièrement, on enlève une liberté à des gens et des populations qui sont très favorables au don d'organes. Au moment où on tombe dans cet état de consentement présumé, la cause perd en popularité. Exemple, en Espagne, là où il y a consentement présumé, la volonté de donner, elle est beaucoup plus faible que dans d'autres pays où il n'y a pas le consentement présumé. Donc, le consentement présumé peut avoir cet effet délétère de décourager des gens ou de faire percevoir aux gens qu'on vient leur enlever une liberté.
C'est étonnant quand même parce que vous parlez de l'Espagne, Dr Marsolais, puis au Québec, on dit qu'il y a environ 24 donneurs par million d'habitants. L'Espagne, où on a donc cette présomption qu'on donne notre consentement, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le consentement présumé, le consentement automatique, on a le double de donneurs par million. On a 48 donneurs par million. Ces chiffres-là, vous dites... C'est pas à cause du don automatique, c'est...
Tout à fait. Ça n'a rien à voir avec le consentement présumé. Puis c'est pourquoi les gens font une association trop facile. Je vous explique. En Espagne, le consentement présumé a été établi en 79. Et jusqu'en 89, l'Espagne avait 14 donneurs parmi la population. Ils ont été 10 ans avec consentement présumé avec aucun résultat. Et en 89, ils ont changé la structure organisationnelle. Et là, le don d'organes a explosé. Et ça n'a rien à voir avec le consentement présumé. En France, c'est en 76 que le consentement présumé a démarré. Et je peux vous dire qu'en 2000, la France était encore derrière le Québec. Et dernièrement, la France a explosé. Donc, ils ont été plus de 25 ans avec consentement présumé. Et ça n'avait rien donné. C'est pas le consentement présumé qui a fait exploser les dons d'organes en Espagne et en France. Donc, si on s'attend à avoir un résultat spectaculaire grâce au consentement présumé, on vise la mauvaise cible et malheureusement, on va être déçu puis on va perdre du temps parce qu'il n'est pas là le problème.
Donc, c'est quoi qui a fait exploser le...
Ben, en Espagne, c'est l'organisation, la structure organisationnelle pour pouvoir prendre en charge les donneurs et les familles. En France, c'est la même chose, prendre en charge les donneurs et les familles et récupérer la fonction des organes. Et c'est là où on obtient si on prend soin des familles, parce que faut pas oublier que quand quand on arrive dans une situation où il y a un don d'organes, une famille vit une catastrophe. Moi, j'ai rencontré plusieurs centaines de donneurs d'organes, de familles de donneurs d'organes, là, et je me souviens un homme qui venait de perdre sa fille de 19 ans, qui était étudiante à Polytechnique, qui me dit, docteur, je suis désolé, je sais qu'il faudrait donner les organes à ma fille, mais je suis incapable. Mm. Je suis incapable de me résigner au fait que vous allez prélever les organes. Puis je sais que c'est pas bien, je sais que c'est mal, mais je suis pas capable. Puis maintenant, mettez-vous en contexte. Vous perdez votre enfant, vous, Madame Maréchal, et vous êtes dans un état lamentable. Si on vous soutient, si on fait preuve de bienveillance, si un lien de confiance établi, puis on fait attention à vous, vous allez vous sentir capable de le faire. Mais si, par exemple, le consentement présumé fait en sorte que c'est un raccourci, puis là, je vous dis, bien, de toute façon, le consentement, on les prend les organes, puis je fais pas suffisamment attention, je démontre pas suffisamment d'empathie pour vous soutenir dans l'épreuve, c'est tellement souffrant, tellement douloureux, que vous pourriez dire dans un moment de panique. Alors, vous savez que c'est pas raisonnable, mais vous êtes dans un moment de panique, vous dites, docteur, vous toucherez pas à ma fille, vous toucherez pas à mon fils.
Mais docteur Marcellet, je suis pas un bon exemple. Parce
oui,
que
non, mais,
je suis convaincue, et qu'on soit gentil ou pas avec moi, qu'on me traite bien ou pas, je pourrais vous raconter des histoires d'horreur après qu'on ait eu, que Thierry ait eu sa greffe ou des médecins ont vraiment pas fait preuve d'empathie. Pas des médecins qui l'avaient greffé, bien sûr, mais des médecins ensuite aux soins intensifs ou d'autres médecins. Vous savez, on pourrait parler du manque d'empathie de bien des médecins, mais moi, je ne suis pas un bon exemple parce que je peux témoigner. Je fais partie des familles de receveurs, vous comprenez? Moi, je peux témoigner à quel point ça a changé notre vie. Donc, au-delà de la gentillesse puis de l'encadrement que je comprends, puis je comprends tellement cette situation difficile, je l'ai pas vécu du côté du donneur, mais je l'ai vécu du côté du receveur, où dans les deux cas, il y a quelqu'un qui vient de mourir, puis dans l'autre cas, il y a quelqu'un qui va mourir. Et c'est toujours le débat. C'est lequel...
Dans la situation particulière, vous dites, ben oui, les bénéfices sont immenses, alors si je perdais un proche, maintenant, je suis sensible à ça.
Mais moi, je suis convaincue que quand on est mort, on est mort. Vous comprenez? Après,
oui.
Et puis je suis pas religieuse. Je peux être spirituelle, mais...
Oui, sauf que là, vous parlez de ça, vous êtes dans une situation où vous êtes assise dans votre studio, vous êtes...
Non. Pierre, j'ai été...
Oui,
mais non,
je sais,
je vous parle pas de ça, désincarné.
Oui, non,
pouvez-vous
mais
imaginer quand on m'a dit que Thierry avait le cancer du foie, puis qu'il était numéro 3 sur la liste de Transplant Québec, puis que c'était ça, que le soin palliatif, c'était la prochaine affaire qui nous pendait au nez. Pensez-vous que j'ai regardé ça froidement dans mon studio en me disant, ouais, ce serait le fun qu'ils reçoivent un donneur?
À ce moment-là, non, mais maintenant, au moment où vous jugez de...
Tous les jours, j'y pense. Pierre,
tous les jours, j'y pense.
Puis il prend des médicaments trois fois par jour. Il prend des médicaments trois fois par jour. Il prend à peu près 20 médicaments par jour. Vous pensez pas qu'on est encore tous les jours là-dedans? C'est ta vie, là. Mais vous savez quoi? Au moins, il est vivant.
Oui, je comprends. Mais moi, je peux vous dire que si vous souhaitez avoir plus d'organes, et ça, ça a été... L'histoire nous l'a montré, là, en Espagne, en France et dans les autres pays. L'histoire nous l'a montré. Que ça ne repose pas là-dessus. Je ne dis pas que les organes ne sont pas nécessaires. Je ne dis pas que les gens ne devraient pas être sensibilisés. D'ailleurs, je passe mon temps, je passe ma vie à sensibiliser les gens aux dons d'organes.
Je ne suis pas insensible
à cette cause-là. Mm-hmm. Okay? Mais si vous souhaitez avoir plus d'organes, l'énergie doit être mise partout, là, auprès des familles. On doit consacrer bienveillance, empathie, soutien, explication aux familles, et aux professionnels qui sont pas confortables.
Mais vous m'avez parlé de mes enfants, puis je veux pas de jinxer rien, mais parlons des vôtres. Si vous, ça vous arrivait, docteur Marcellet, c'était votre enfant, qu'est-ce que vous choisiriez?
Je suis incapable d'aborder ce sujet-là, je me mets à pleurer à chaque fois.
Exact.
Voyez-vous, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de... aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille, Alice. Je peux pas imaginer perdre ma fille. Alors, je serais pas rationnel. Ça fait 30 ans que je milite en faveur du don d'organes. Mais si je perdais mes enfants, pour moi, c'est impensable.
C'est sûr. Il n'y a personne qui veut penser à ça. Mais quand on est en mort cérébrale, puis vous êtes un médecin, vous êtes bien plus spécialiste que moi pour le dire, mais quand on est en mort cérébrale,
oui,
il
n'y
a rien à faire.
Oui, on est mort. Mais
on est mort, mais il y a du monde. Il y a à peu près 1000 personnes par année qui attendent.
En fait, certainement que je prendrai la décision
la
de donner. Certainement que je prendrai la décision de donner parce que je sais que mes enfants, c'est ce qu'ils souhaiteraient aussi. Sauf que vous imaginez l'état dans lequel ces gens-là se trouvent. Alors, s'ils sont dans un état de panique et qu'ils n'ont pas perçu de l'empathie, du soutien ou simplement qu'ils n'ont pas réussi à cheminer dans la compréhension de la mort cérébrale, ces gens-là désemparés, ils ne prendront peut-être pas la même décision. Alors, c'est là où il faut
mais
consacrer
et c'est là où je pose la question. Est-ce que cette décision-là doit être dépendante de... Puis je fais attention à ce que je dis, parce que si vous saviez, puis vous le savez, Pierre, à quel point j'ai du respect pour les familles de donneurs. Sans elles, il n'y en a pas de vie pour les autres qui attendent. Mais est-ce que cette décision-là doit dépendre de l'émotivité, de l'accident, de la mort qui vient d'arriver? Est-ce que, si, en fait, est-ce que quelqu'un si on essaie... qui est émotivement impliqué peut prendre la bonne décision? Ben, est-ce que la bonne décision, c'est de refuser le don d'organes?
Ben, je peux vous dire que quand c'est bien fait, c'est là où l'histoire parle, nous donne les réponses qu'on a besoin. Là où c'est bien fait, les résultats, ils sont. Et que ce soit consentement présumé, ou il y a des pays où il y a consentement présumé et le don d'organe est derrière le Québec, ils sont derrière nous. Là. Et il y a des pays où il y a consentement explicite et sont parmi les meilleurs. Bon, exemple, aux États-Unis, c'est consentement explicite. Ils sont très, très loin devant tout le monde. Là. Ils sont juste derrière les Espagnols. Là. Alors, il y a bien, bien, bien des pays qui souhaiteraient avoir les résultats d'un pays avec consentement explicite comme aux États-Unis. C'est quoi la différence? C'est que justement, depuis 2003, il y a eu toute la révolution aux États-Unis sur la façon de faire et soutenir les familles. Et ça a donné les résultats. Autrement dit, si c'est des résultats qu'on veut, la solution, c'est pas consentement présumé. Ce qu'on souhaite, c'est des résultats. On veut des transplantations, on veut sensibiliser les gens. Et la solution, c'est pas le consentement présumé. Quand je vous dis que le consentement présumé n'est pas la solution, c'est pas que je suis pas en faveur de zone d'organe. C'est pas que je fais ça jour et nuit depuis plus de 30 ans. Là, ma vie repose sur la sensibilisation des gens et l'éducation des gens au don d'organes. Par contre, mon exposition, moi, j'ai vu plus de 300 familles de donneurs d'organes. Mon exposition me démontre que cette souffrance-là mérite d'être soutenue comme il faut. Et quand on le fait bien, puis je peux vous dire que des résultats, on a eu des très, très bons résultats. Là. Personnellement, j'ai eu des très, très bons résultats en taux de consentement et en nombre d'organes transplantés. Et ça repose sur ça, cette bienveillance accordée, ce soutien accordé. Et elle est là, la solution. Vous savez, au Brésil, on a fait comme certains peuvent percevoir, on fait consentement résumé, on ne demande plus la vie à la famille et on prend les organes. Parce que de toute façon, il n'y a rien à perdre, la personne est morte. Et ça a tellement causé un recul de la cause au Brésil, qui est 18 mois plus tard, il y a
mais
fallu
dit comme ça, c'est sûr, Pierre Marcellet, tu sais, on prend tes organes. Les gens pensent qu'ils vont se faire arracher leurs organes de leur corps. Moi, je pense que, on peut-tu avoir les deux? On peut-tu avoir un consentement présumé et de la bienveillance?
Oui.
Ou c'est au choix?
Ben,
l'un ou l'autre?
Ben, pourquoi on peut-tu avoir les deux? Ben oui. Pourquoi croyez-vous qu'en Espagne, ça a fonctionné? Il y avait consentement résumé depuis 10 ans, ça n'a rien donné, puis maintenant, ben, ils ont changé la façon de faire. Donc, ils ont un et l'autre. Je vous dirais que l'endroit où ça peut faire une différence dans le sens positif, il faut faire très, très attention aux pièges, hein, parce qu'il ne faut pas que le consentement résumé soit un raccourci pour des professionnels qui sont mal à l'aise avec l'approche à la famille, puis dire, de toute façon, maintenant, je suis dédouané parce qu'il existe un consentement présumé. Il faut faire attention que ce ne soit pas un raccourci. Là, j'ai perdu le fil de ce que je voulais
dire. C'est tout à fait correct, Pierre. On va aller à la pause là-dessus. On va voir ce que les gens en pensent. On est en compagnie du docteur Pierre Marcellet, ex-directeur du Centre de prélèvement d'organes du CIUS du Nord de l'île de Montréal. Ça se faisait à l'hôpital Sacré-Cœur. 514-790-9850. Sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Je vous demande si vous êtes pour ou contre le consentement présumé, c'est-à-dire le consentement automatique pour le don d'organes. À tout de suite, tout le monde. On parle de don d'organes ce matin. Je m'entretiens avec le docteur Pierre Marcellet, qui est intensiviste, interniste, qui travaille pour faire en sorte que des gens vivent. Il y a peut-être des gens, là, il y a des gens qui m'écrivent qui disent que je ne le laisse pas parler. Est-ce que je vous laisse pas parler, Pierre Marcellet?
Il me semble que j'ai parlé pas mal.
C'est sûr que c'est un dossier. Si vous cherchez un dossier qui me touche, là, c'est pas mal un de ceux-là, le don d'organes. Alors, c'est sûr que moi aussi, je suis émotive, puis on est comme chacun de notre côté avec Pierre, que je connais bien par ailleurs. Si les gens ont l'impression que c'est un sujet désincarné pour moi, ben je vais vous rappeler l'histoire. Le 7 novembre, il y a 5 ans, mon conjoint a eu la vie sauve grâce à un donneur. Je l'ai dit tellement de fois, je le dis chaque fois que je peux, je remercierai jamais assez la famille d'avoir maintenu la décision du donneur, parce que c'est vrai que c'est facile pour une famille de changer d'idée, c'est-à-dire qu'ils ont le choix, ils ont le libre choix. Et il y a quelqu'un qui m'écrit, Marie écrit, « Le choix de donner mes organes, ça m'appartient personnellement, ça ne regarde pas mes proches. Si je signe ma carte, c'est ma décision. » Et souvent, ce qu'on sait au Québec, puis je pense que Pierre peut le confirmer, c'est que malgré que la carte soit signée, malgré que la personne qui vient de mourir ait fait connaître ses intentions, il y a encore beaucoup de familles qui décident de ne pas suivre ses dernières volontés. Et moi, c'est ça que je questionne. Je me dis, pourquoi? Pierre?
Oui. Moi, j'ai révisé toutes les situations qu'on a connues depuis 3 ans où des familles ont renversé la décision de la personne. C'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé. C'est arrivé 2-3 fois par année. Et à chaque fois que ça arrive, ça me fait beaucoup de peine. Pas parce que des organes ne sont pas transplantés, parce qu'on n'a pas respecté la décision de celui qui s'était prononcé, celui qui est décédé. Par contre, la famille n'a pas cette perception-là. Elle n'est pas en train de renverser une décision quand elle le fait. Elle le fait, elle, toujours en étant convaincue, et probablement que c'est même vrai la majorité du temps, qu'elle fait ce que ferait la personne décédée si elle était dans cette situation-là. Je m'explique. Le don d'organes, là, si vous dites, vous consentez au don d'organes, le prélèvement aura lieu dans plus de 50 heures. Pas dans 4 heures, dans plus de 50 heures. Et 12 à 24 heures plus tard, là, par exemple, le frère du défunt m'appelle pour dire, là, docteur, quand est-ce que vous prélevez? Là, je dis, ça ne sera pas avant demain. Mais là, docteur, là, ça n'a pas de bon sens, là, parce que ma mère, elle pleure depuis hier, et mon frère, avoir su ça, s'il avait su que ça aurait été si long, il n'aurait pas fait ça à ma mère. Mm-hmm. Alors, on va arrêter là. Comprenez-vous? Mm-hmm. Donc, il y a une mise en contexte qui fait que mon frère, avoir su ça, c'est pas cette décision-là qu'il aurait pris. Donc, quand il a signé sa carte, il pensait que c'était pour prendre les organes tout de suite, et maintenant que ça prend, et à chaque fois où la décision était renversée, c'était toujours parce que notre processus était trop long.
Voilà.
Donc, la famille dit, on prend une décision qu'il aurait pris, avoir su que le processus était si long.
Vous insistez sur la prise en charge, en fait, puis sur l'organisation. Si vous voulez bien, on va parler à Éric Goujon, qui a reçu une greffe de rein et de pancréas à 32 ans. Aujourd'hui, à 43 ans, il est pour le consentement automatique, le consentement présumé. Bonjour, Éric Goujon.
Bonjour, Isabelle. Bonjour, Dr. Norcelli.
Expliquez-nous un peu comment vous voyez ça, Éric.
Ben, moi, c'est sûr que je milite en faveur du consentement présumé, ou appelons-le don d'organes automatique depuis 2011 que je milite en cette faveur-là. Bien sûr, là, on ne l'a pas expliqué, mais j'explique que si, exemple, le consentement est présumé, il y a toujours un registre de refus de donner ses organes qui serait établi et géré par les personnes, là, soit de Transplant Québec ou les hôpitaux. C'est sûr que c'est peut-être pas la solution miracle que je pourrais dire, mais ça l'aiderait favorablement au don d'organes. Parce que là, j'ai pas eu le temps de trop préparer des chiffres, là, j'étais un peu à l'improviste, mais ce que j'ai déjà vu sur le site de Transplant Québec, c'est que 90% des personnes, des Québécoises sont en faveur du don d'organes, mais il y a seulement qu'une personne sur 10 qui l'a mentionné, soit par consentement ou soit par la signature de la carte d'assurance maladie. Fait que là, c'est un peu un manque de volonté de vouloir faire ce qui devait être fait. Puis malheureusement, présentement, avec tout ce qu'on entend, le débat de oui, est-ce qu'on devrait présumer ou non le don, les familles qui acceptent ou qui refusent, même si la carte est signée, ben les gens veulent même plus signer la carte, ils veulent même plus faire le processus du don d'organes au Québec, parce que c'est pas encore clair là de ce côté-là. Puis, j'enlève pas la vertu de la fondation du Dr. Marcellet qui vient en aide aux familles de donneurs quand les personnes acceptent. Mais de l'autre côté, moi, ma famille n'avait pas de soutien quand j'étais en attente de greffe, puis que les médecins ont dit qu'il me restait 9 mois à vivre. Mm. Fait que c'est un peu, tu sais, oui, il y a beaucoup de travail à faire au Québec. Puis, je commence à être un peu. Tu sais, j'arrête de comparer avec l'Espagne, la Nouvelle-Écosse, qui ont emboîté ce processus-là qui, bon, selon les chiffres de Dr. Marcellet, là, c'est peut-être pas favorable, mais si on se regarde ici au Québec, on sait que les Québécois sont généreux, puis ils veulent donner à leur décès. Puis moi, je reste convaincu que si moi, je signe en connaissance de cause ma carte de don d'organes, puis que je donne à mes proches que je veux donner, ben je vais aller lui chatouiller les orteils s'ils vont à l'encontre de mes volontés à mon décès. Là, parce que c'est ma volonté. Si je décide d'être incinéré, je vais être incinéré. C'est respecté. Que le don d'organes ne soit pas respecté, puis qu'on perde des personnes. Il y a eu 28 décès l'année passée, en 2018, 28 décès sur la liste d'attente. C'est trop, là. Un, c'est trop. Puis c'est ça, je ne changerai jamais de position là-dessus.
Merci, Éric. Merci beaucoup. Manon, votre fils a fait don de ses organes, mais vous n'êtes pas pour le don automatique, le consentement automatique.
Non, non effectivement. Bonjour, Madame bonjour. Maréchal. En fait, je suis très, très sympathique à la cause des gens qui ont besoin de recevoir des organes. J'ai moi-même donné les organes de mon fils. Jean-François avait pas signé sa carte soleil là, pour dire qu'il voulait faire le don d'organes, mais je savais que c'était ce qu'il aurait voulu. Par contre, je pense vraiment pas que le consentement automatique changerait quelque chose parce que, premièrement, le monsieur juste avant moi, il l'a dit, la volonté des Québécois, les Québécois en général, tout le monde veut donner. On en parle dans nos cuisines, on en parle dans nos salons. C'est clair que tout le monde veut donner ses organes. On est tous sensibles à cette cause-là. Le problème, il est quand tu arrives à l'hôpital, premièrement, pour avoir, c'est les familles vivent des drames parce que c'est toujours dans un drame une mort cérébrale.
Ouais.
On l'a pas vu venir, c'est un accident. On est complètement défait il manque. Les familles doivent être encadrées, doivent sentir que on a. Moi, c'est ce qui a fait la différence. En fait, ça a été très long aussi. Ça, c'est la chose qu'on a parlé tantôt.
Ouais.
Ça a été très très long. J'ai été plusieurs jours à l'hôpital à ne pas dormir, à pleurer ma vie, à être là. Je suis arrivée, moi, à l'hôpital en jaquette parce que mon fils, l'accident est arrivé subitement. J'ai passé plus de 24 heures avec une chemise de nuit à l'hôpital complètement déstabilisée. Fait que c'est sûr que je voulais passer à travers le don d'organes. Je voulais donner les organes puisque c'était tout ce qui nous restait de beau à faire. Puis je le savais que ça donnerait quelque chose de beau. Mais si j'avais été bousculée, si j'avais été maltraitée ou si on s'était fait mettre de la pression de n'importe quelle façon, je le sais que dans l'état d'esprit où j'étais, j'aurais pas réussi à passer à travers le processus. Puis moi, je suis rendue que ça me fâche quand je vois des annonces à la télé de gens donner des organes. Tout le monde veut les donner. Il n'y en a pas de doute là-dessus. C'est comment que ça se passe, la réalité, comment que ça se passe dans les hôpitaux, comment les disponibilités des médecins, les disponibilités des salles d'opération. Je pense que le problème est beaucoup plus complexe que juste la volonté des gens de donner.
Merci beaucoup, Manon, de votre témoignage. Merci, Dr. Pierre Marcellet. On aura l'occasion de se reparler de ça, mais on comprend bien que vous insistez sur la prise en charge des potentiels donneurs et l'encadrement empathique des familles avant de
le consentement résumé, c'est pas mal en soi, mais c'est un raccourci et l'énergie, il faut la mettre ailleurs.
Merci.
Pour éviter ce raccourci. Merci.
Merci beaucoup. On va s'arrêter ici, très courte pause, tout de suite après en entrevue sans filtre. Je reçois le conteur Fred Pellerin. Restez là, tout le monde.